Les entretiens d'Accent 4.
Bonjour Anne Azéma.
Bonjour.
Strasbourg lance dès le vendredi 4 octobre les festivités du 60e anniversaire du jumelage avec Boston, créé à l'initiative du grand chef d'orchestre strasbourgeois Charles Münch. Boston est une ville que vous connaissez bien, puisque depuis 2008, vous êtes à la tête de la Boston Camerata, qui est un ensemble spécialisé dans la musique ancienne. Ce samedi 5 octobre à 20h30, au Palais de la Musique et des Congrès, vous êtes invité à diriger votre ensemble dans un programme Free America que vous avez donné tout récemment, et paraît-il avec beaucoup de succès, à la Philharmonie de Paris. On va bien sûr évoquer ce concert et le disque qui en fait écho, qu'Harmonia Mundi vient de publier. Mais quelques mots peut-être, qui ne sont sans doute pas inutiles, sur la Boston Camerata qui a été créée en 1954.
Oui, personne n'était né à l'époque, n'est-ce pas ? La Camerata a été créée au Musée des Beaux-Arts à Boston pour, en quelque sorte, illustrer la collection d'instruments anciens. Narcissa Williamson, je ne suis pas la première femme à diriger la Camerata, Narcissa Williamson trouvait que c'était très bien que le public puisse entendre les instruments, pas seulement les voir. Et donc, elle a créé cet ensemble d'amis qui jouaient sur les gambes, qui sur les violons, qui sur le clavecin, et la Camerata est née ainsi. Puis, elle est sortie du Musée des Beaux-Arts en 1974, sous la direction de Joel Cohen, qui a continué à diriger l'ensemble jusqu'en 2007, et on m'a demandé de reprendre la Camerata en 2008. Donc ça va être ma 11e année cette année.
Et vous êtes venu comment à la Camerata ?
Ah, j'aime bien que vous me posiez cette question parce que je sors du conservatoire où j'ai travaillé avec de jeunes élèves, lycée, conservatoire, sur la musique américaine, et ils me posaient la même question. Et je leur ai dit, ben voilà, j'ai fait un stage quand j'avais votre âge avec un ensemble qui s'appelait la Camerata de Boston, et j'avais besoin de voir d'autres horizons et de découvrir d'autres choses, donc je suis partie à Boston. Et quelque part, j'en suis jamais revenue. Je viens très souvent en Europe. Ma carrière est en grande partie menée en Europe. J'enregistre avec des maisons de disques en Europe. Enfin, bon, l'Europe m'est chère, il n'est pas question de l'abandonner. Mais les États-Unis sont maintenant une grande partie de ma vie.
Vous aviez le goût de découvrir cette musique américaine, cette musique ancienne américaine ?
À l'époque, non, parce que je n'en connaissais rien, comme beaucoup autour de moi. Je l'ai découverte plus tard, une fois que j'étais installée aux États-Unis. On m'a emmenée à ce qu'on appelle un « shape note » ou « sacred harp sing ». Et là, franchement, j'en suis jamais revenue, parce qu'il y a une telle force dans cette musique fin 18e, début 20e, qui est un fait, on va dire, d'amateur, pour amateur éclairé, une musique qui a des contours très particuliers, qui rappelle énormément les îles britanniques, certes, mais aussi la musique beaucoup plus ancienne. Et donc, le choc que j'ai eu, c'est de trouver une musique encore pratiquée de nos jours, qui pouvait, à sa façon et de la manière dont elle était interprétée, peut-être faire des échos à la musique que j'étudiais et à laquelle je me consacrais. C'était quand même un très grand choc. Et ensuite, je l'ai regardé de plus près, je m'y suis intéressée de plus près, j'en ai enregistré plusieurs albums avec Warner Erato, avec des collègues. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que nous pratiquons ce style. Donc maintenant, c'est devenu un autre vernaculaire pour moi, que j'adore et qui me semble très puissant et que j'aime beaucoup partager et faire découvrir.
Il y a une très grande fidélité des directeurs musicaux avec cette Camerata de Boston. Trois directeurs.
Non, il y en a eu d'autres. Entre Narcissa Williamson et Joel Cohen, il y en a eu plusieurs autres.
In a chariot of light from the regions of day, the goddess of liberty came. 10,000 celestials directed the way and thither conducted the day. This tall budding branch from the garden above, where millions with millions agree, she brought in her hand as a pledge of the love, the pledge she called Liberty Tree. This celestial exotic struck deep in the ground, like a native it flourished and the fame of its fruit drew the nations around to seek out its peaceable shore. Unmindful of names or distinction they came, for free men like brothers agree. With one spirit endowed, they one friendship pursued, and their temple was Liberty Tree. Beneath this fair branch, like the patriarchs of old, their bread in contentment they ate. Unwearied with trouble of silver the gold, or the cares of the grand and the great. With timber and tar, the old England supply supported her power on the sea. Her battles they fought without having a groat for the honor of Liberty Tree. But hear, O ye swains, 'tis a tale most profane, how o'er the tyrannical powers, King Commons and Lords are uniting amain to cut down this guardian of ours. East to the west, blow the trumpet to arms, through the land let the sound of it flee. Let the far and the near all unite with a cheer in defense of our Liberty Tree.
Le programme du concert que vous allez donner samedi, s'intitule Free America et s'articule autour de trois thèmes, l'union, la liberté et l'égalité, célébrés par des chants. Quelle est l'origine de ces chants ?
Mais ça va être un très long programme, vous savez, si on en discute de tous les détails. Comment vous dire ? Il y a plusieurs origines. Il y a, par exemple, les airs que tout le monde connaissait à l'époque à Boston au 18e. Par exemple, « Rule Britannia ». Tout le monde connaissait cet air et quelqu'un s'est dit « Oui, mais nous ne sommes plus maintenant, nous ne voulons plus être sous la coupe de l'Angleterre, donc on va trouver d'autres mots, Rise Columbia, pour pouvoir rendre beaucoup plus américain ce morceau. » Il y a aussi d'autres airs qui sont des soutiens de textes très importants. Par exemple, « Liberty Tree », un texte de Thomas Paine, qui d'ailleurs a beaucoup vécu en France, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais qui est un des fondateurs de la Jeune République. Et ce texte très important sur la déesse liberté, sur la graine de la liberté et sur le combat pour la liberté a été mis en musique. Donc ça, c'est un autre type de musique. Il y en a d'autres qui sont inspirés de musique instrumentale, de musique à danser, sur lesquelles on a mis des paroles, et d'autres qui sont d'anciens cantiques spirituels, revus, corrigés, composés par des amateurs américains pour des amateurs américains, et revus, corrigés avec des textes politiques de façon à donner du cœur au ventre à ceux qui voulaient vraiment se séparer et très vite de l'Angleterre.
C'est ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que ces textes avaient une dimension politique dans le contexte historique de l'émergence de ces États-Unis d'Amérique ?
Tout à fait. Tous ces textes ont des connexions politiques, bien sûr. Même lorsque l'on évoque des textes bibliques, comme par exemple dans David's Lamentation de William Billings, qui part de la douleur du roi David à la mort de son fils Absalom, et qui pleure Absalom, évidemment c'est une image et c'est un écho et c'est un symbole pour le roi George qui perd son fils et ses colonies. Et donc il y a comme ça des échos à plusieurs niveaux, des symboles. Lorsque le chant dit « Where are the Hebrew children », les enfants hébreux sont évidemment des images très puissantes d'un peuple qui est en migration et qui s'en va de là où il était confortable pour aller ailleurs et trouver une liberté ailleurs. Donc oui, soit ces textes sont politiquement très clairs, sortons-nous de la mainmise d'un tyran, cherchons la liberté, ou alors des images bibliques très puissantes qui sont des symboles pour des situations politiques dans lesquelles la Jeune République est, ou des combinaisons des deux parfois.
Est-ce qu'ils sont accessibles assez facilement, ou est-ce que Anne s'est transformée en musicologue, en rat de bibliothèque ?
J'ai toujours été un peu un rat de bibliothèque. C'est très difficile de faire de la musique ancienne et de la musique très ancienne sans avoir un peu de curiosité, de savoir d'où viennent les sources, comment elles sont faites, d'éditer son propre matériel, de créer son propre matériel, etc. De choisir ce que l'on veut faire, etc. Donc c'est très difficile de ne pas avoir envie d'aller voir d'où viennent ces sources et de quoi elles sont faites. Donc bien évidemment, oui, le rat de bibliothèque sommeille en moi et se réveille très fréquemment. Et ma bibliothèque aussi est pleine de très jolis ouvrages collectés en partie par Joël Cohen d'ailleurs, en partie par moi, de musique ancienne, de vieux livres ou de manuscrits. Donc oui, bien sûr, très difficile de ne pas le faire.
Alors ces chants ont été notés, il n'y a pas de tradition orale.
C'est la difficulté de ce répertoire. Ou au contraire, l'avantage, selon où vous vous placez. Toutes ces musiques sont notées. Il n'y a pas de transmission orale. Mais il y a bien entendu un élément d'oralité très important. Je pense particulièrement aux musiques des communautés Shaker, qui sont des communautés de Quaker qui ont quitté l'Angleterre et qui sont venues s'établir aux États-Unis fin 18e pour échapper à la mainmise de l'oppression religieuse en Angleterre. Et ces Shakers, qui ont une bibliothèque énorme, musicale, de chants, plus de 15 000 mélodies, enfin, ces chants ont clairement une connexion avec une oralité profonde qui rappelle la musique dite folklorique des îles britanniques. Donc il y a des connexions avec l'oralité, mais tout est noté. Donc on est hors de la musique orale. On est vraiment dans une musique quasi savante qui flirte avec l'oralité, qui flirte avec le style de la musique orale et qui devient une chose un peu particulière, américaine, et qui justement fleurit dans ce contexte très particulier.
Sanctum te toile, didelo, 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 dam, dam, do. Sanctum te toile, didelo, 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 dam, dam, do. Didelo, didelo, dam, dam, didelo, 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 dam, dam, do. Didelo, didelo.
Sanctum te, tale, didelo, 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 dam, dam, do. Sanctum te, tale, didelo, 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 dam, dam, do. Didelo, didelo, dam, dam, didelo, 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 dam, dam, do. Didelo, didelo, dam, dam, didelo, 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 dam, dam.
Mais ça doit être passionnant que de découvrir tout ce répertoire, parce que c'est aussi découvrir l'histoire des États-Unis.
Bien entendu. Qui d'ailleurs est très lié avec l'histoire de la France, je vous le rappelle, hein, main dans la main, et avec des échanges constants. Il n'y a pas que Lafayette, hein. Il y en a beaucoup d'autres, Jefferson, Thomas Paine, et d'autres, et les idées vont et viennent. Et ce qui me touche énormément, et ce qui m'interpelle, et ce qui, j'espère, aussi plaira au public qui viendra au concert le 5 octobre à Strasbourg, c'est que ces idées que l'on croit issues du passé, cette révolution que l'on croit pour toujours terminée, en fait, si vous ouvrez votre journal ce matin, vous vous rendez bien compte que ce sont toujours des questions que l'on doit se poser, que l'on se pose sur la tyrannie, sur l'union, sur la liberté, sur des grandes questions de fondement de société qui sont en grande partie non résolues.
Est-ce que ces chants étaient pour le peuple une manière d'exprimer mieux que le texte des convictions politiques ?
Ça, c'est aussi une très grande question et un grand sujet. Est-ce que la musique aide à la propagande ? Est-ce que la propagande fait la musique ? C'est un espèce d'ascenseur qui va dans les deux sens. Hein. S'il monte, il descend. Donc, je ne peux pas vraiment vous répondre généralement, mais il me semble tout de même intéressant qu'on ait une version de « Liberty Tree » de Thomas Paine, qui soit à deux voix, où ces deux voix flirtent constamment entre la consonance et la dissonance, lorsqu'elle parle des graines de l'arbre de la liberté et de l'espoir de l'union fraternelle. C'est quand même pas un hasard, je pense. Donc oui, il y a des rapports très profonds entre la musique et les textes, bien évidemment, et entre les choix politiques et les espoirs et les aspirations politiques. Et la musique est un des éléments qui va bien entendu aider.
Take warning by this, since death will soon.
je vous posais cette question parce que la plupart des compositeurs n'étaient pas des professionnels.
La plupart des compositeurs n'étaient pas du tout des professionnels. William Billings est un tanneur, Jeremiah Ingalls est un bistrotier. Vraiment, ce sont des gens comme le citoyen lambda qui composent parce qu'il y a là un besoin immédiat, pressant, de faire que les communautés aussi se forment, et la musique va aider à former les communautés et donc à faire passer des tas de messages spirituels, politiques et aussi séculiers.
D'où ces compositions qui peuvent heurter certains puristes puisqu'il y a, paraît-il, des fautes dans l'écriture.
Alors, comment on définit faute est toute une conversation. C'est certain que si vous espérez passer votre examen au conservatoire cette semaine et si vous présentez David's Lamentation ou d'autres morceaux d'autres compositeurs de ce programme, je pense que votre professeur d'harmonie va vous regarder un peu de travers. Et d'ailleurs, à Boston, au milieu du 19e siècle, on regardait un tout petit peu ces gens-là de travers en disant « Mais ça, c'est bon pour les débuts, mais là maintenant, il faut envoyer nos compositeurs en Europe de nouveau pour aller étudier les styles de Mozart et Mendelssohn. Il n'est pas question de continuer comme ça. » Mais toutefois, je trouve que c'est un style très intéressant parce que dans ces espèces de maladresses, dans ces espèces d'ourlets mal dégrossis, dans ces façons de traiter les voix et les polyphonies, il y a une grande force. Parce que qui parle d'octave, de quinte, de quarte, parle aussi d'angles un peu rugueux et de choses un peu définitives comme ça. Et ces maladresses de quinte parallèle, parfois, font qu'on a quand même une force qui se dégage de ce fait musical. Et ça, c'est très intéressant.
Alors, est-ce que ces maladresses posent un problème à Anne Azéma, interprète ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Absolument pas. Lorsque l'on vient de répertoires plus anciens, médiévaux, pour ne pas les nommer, non, pas du tout, absolument pas. Au contraire, je dirais même que cette espèce de liberté puissante qu'on a à chanter ces répertoires finissent par éclairer un peu d'autres répertoires en leur donnant une force que peut-être ils n'avaient pas avant. C'est qu'on s'apprend à se reconnaître aussi en chantant des musiques de ce type-là.
Vous avez souligné les connexions entre l'Europe, le vieux continent, comme l'avait dit un premier ministre des Affaires étrangères à l'époque, et ce jeune continent, les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a une influence des compositeurs européens sur ces musiques, sur ces pages qui sont écrites plus tardivement par des professionnels ?
Oui, il y a des échanges, il y a des inspirations. Par exemple, on va dire que Rise Columbia, par exemple, qui est basé sur Rule Britannia, Thomas Arne, a une connexion très immédiate entre un compositeur qui, là, pour le coup, n'est pas amateur, et un texte qui va servir les débuts de la Jeune République, Rise Columbia. Il y a un autre exemple qui est magnifique, qui est Aaron Copland, qui s'inspire de chants Shakers, Simple Gift, pour ne pas le nommer, et qui l'inclut dans une suite, et qui fait un espèce de coup de projecteur sur ses répertoires plus tôt, alors que lui est en train de créer un son américain en général, par son écriture en général, là ne regarde pas vers l'Europe, mais au contraire regarde vers le passé de l'Amérique pour pouvoir éclairer son propre travail et le futur.
Alors ce disque, Anne, vous l'avez imaginé de quelle manière ? Quelle progression lui donnez-vous ? J'ai l'impression qu'il y a des chapitres.
Il y a plusieurs chapitres et d'autres en feraient d'autres. Je veux dire, c'est un sujet si vaste qu'il a bien fallu se couper un peu au bout d'un moment et arrêter. Mais pour moi, le premier chapitre est quand même sanglant. Je veux dire que cette séparation de l'Angleterre n'a pas été faite sans heurts. De la même façon que la liberté ne se trouve pas sans heurts. Je pense que pour qui veut que l'histoire soit douce et sans angle, se trompe. Ces choses-là se font avec des débats difficiles, avec des conversations difficiles. On est parfois un peu réticent nos jours à regarder ces choses-là de façon plus claire. Il y a un chapitre qui adresse dans le programme et dans notre CD chez Harmonia Mundi aussi, le chapitre de l'égalité sociale aussi. riches et pauvres doivent avoir une place dans cette jeune république. C'est dit clairement par plusieurs, mais il est clair que c'est pas une évidence. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Hein? Et donc on a des textes très puissants qui s'inspirent de textes bibliques ou d'autres qui disent ben moi je serai heureux même si je suis pauvre, ou bien ah ben Lazare il était riche et puis quand il a voulu aller au ciel ah ben on l'a pas laissé aller au ciel, alors moi peut-être qu'on va me protéger aussi. Il y a un autre chapitre qui parle aussi de l'expérience afro-américaine. On ne peut pas ne pas parler de l'histoire américaine ni de l'établissement de la Jeune République sans parler de la profonde, de l'abîme, de l'abysse qu'est cette question de l'esclavage et du fait qu'elle est probablement pas encore résolue, même aujourd'hui. Et il y a une littérature musicale aussi qui en parle, des textes abolitionnistes mis en musique, où nous évoquons aussi d'autres pièces qui parlent de la présence afro-américaine. Les Shakers avaient leur rang, par exemple, ouvert à tous et à toutes, y compris les gens de couleur. Et on a un morceau particulier qui est magnifique, qui évoque une autre façon de faire de la musique, et qui est clairement celle d'un groupe afro-américain. Et il y a un chapitre qui adresse aussi le fait que même si la République se met en place, même si elle arrive à s'établir, il faudra surveiller que ce n'est pas une affaire finie et que de s'opposer au courant mis en place, de râler, de discuter, ça fait partie de ce qui se doit pour que la démocratie s'établisse. Donc ça, c'est notre dernier chapitre, Rise Columbia, ou Free America, qui est le titre de notre CD, mais aussi un morceau dit clairement « Oppose, 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 opposez-vous, opposez-vous ». Il n'est pas question de dire simplement « Tout va bien, merci beaucoup ».
Et pour ce concert strasbourgeois, la Boston Camerata, bien sûr, mais vous aurez aussi des musiciens strasbourgeois.
Oui, lorsque la ville de Strasbourg nous a invités à ouvrir les cérémonies du 60e anniversaire du jumelage entre Strasbourg et Boston, j'ai immédiatement dit « Bravo, super, on est très contents, mais ce serait bien de pouvoir inclure des musiciens de Strasbourg aussi pour que ce soit une affaire, une conversation à plusieurs. » Donc nous serons rejoints par un chœur qui est formé de chanteurs qui sont issus du cadence pôle musical régional que dirige Denis Aberkorn, avec qui j'ai eu un stage très intéressant la semaine dernière. Nous avons travaillé déjà sur ces musiques-là. Nous aurons aussi le chœur universitaire, dirigé par Annick Desbizet, qui viendra aussi nous rejoindre. Et je viens de faire aussi une séance d'introduction à la musique américaine avec des lycéens qui sont au conservatoire et qui viendront aussi au concert et se mêleront à nous. Mais ça, je ne vais pas tout vous raconter, il faudra que vous veniez voir.
C'est samedi 5 octobre à 20h au Palais de la Musique et des Congrès. Et puis... précipitez-vous chez tous les bons disquaires, ou en tout cas, vous pouvez aussi le commander, bien sûr, sur Internet. Ce très beau disque, Free America, c'est une manière de se plonger dans cette histoire.
Ce disque que vous pourrez aussi acheter au concert.
Voilà, et que vous dédicacerez peut-être.
Absolument.
Eh ben voilà. Donc, ce disque qui vient de paraître chez Harmonia Mundi, un très beau moment musical. Merci Anne d'être passée par ce micro.
Avec grand plaisir.